France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie Richeux, bonjour Camille Laurence. J'ai adoré votre dernier roman, Camille Laurence, parce que pour moi c'est le roman total. Tout est là, l'histoire, le style, la construction. Donc je ne sais pas ce qu'on peut attendre de plus d'un livre que ça.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Premier zoom de votre book club sur la rentrée littéraire de janvier 2025 avec l'une de ses autrices les plus attendues. Le personnage principal du nouveau roman de Camille Laurence est écrivaine. Elle rencontre un homme, en tombe amoureuse. Assez vite, ils se font deux promesses. Lui, lui demande de ne jamais écrire sur lui. Elle, lui demande de ne jamais la trahir. Ni l'un ni l'autre ne tient sa promesse et le livre remonte l'histoire de ce qui apparaît peu à peu comme une emprise amoureuse tissée serrée où se rejouent d'autres promesses non tenues. Camille Laurence est notre invitée. Vers 15h50, nous retrouvons Diaty Diallo, romancière et performeuse. Elle est en résidence dans votre book club tous les lundis pendant 6 semaines. En écho avec la situation de jeunes mineurs migrants isolés à Paris, elle relie Russell Banks pour souligner le droit à l'enfance de tout un chacun. Et nous terminerons en chanson, comme chaque jour, grâce aux grands yeux des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure. C'est super. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour Camille Laurence.
Bonjour Marie Rich.
Votre livre Ta promesse a paru aux éditions Gallimard. Il va être au cœur de notre conversation tout à l'heure. Mais ici, tout commence toujours par faire une sorte de portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs et des lectrices. Vous diriez que la lecture occupe quoi comme place aujourd'hui dans votre vie? Et est-ce que cette place a changé?
Alors, je suis une sorte de lectrice permanente et totalement engagée dans cette activité qui est mon activité principale, je dirais, depuis l'enfance. D'abord, ça fait des années que je fais partie de jurys littéraires,
le Féminin
et maintenant le Goncourt. Donc, je suis amenée. Et puis, j'ai été chroniqueuse dans différents journaux.
Dont sur notre chaîne.
Voilà. Et donc, je lis, mais c'est toujours un bonheur. Ça n'a jamais varié. Mais je lis beaucoup plus de littérature contemporaine maintenant, et essentiellement d'ailleurs. Et toute la première partie de ma vie, enfin même au-delà de la première partie, j'ai lu ce qu'on appelle les classiques. Et voilà, ça a été le bonheur principal de ma vie. Quand j'étais enfant, la phrase que j'ai peut-être le plus entendue, c'est mon père me disant « on ne lit pas à table », parce que j'arrivais à table avec mon livre que je posais à côté de mon assiette pour pouvoir le récupérer tout de suite.
Je vous avoue que c'est une question que je me pose moi-même. Est-ce qu'on ne lit pas à table alors, quand on est avec d'autres personnes? Est-ce qu'il faut dire aux enfants qu'on ne lit pas à table?
Maintenant, que j'aurais plutôt leur dire « on ne prend pas son portable, on ne lit pas sur son téléphone ». Mais bah oui, je pense quand même qu'on ne lit pas à table.
Allez, on ne lit pas à table, c'est tranché pour aujourd'hui. Oui, pour 2025, on ne lit pas à table. Camille Laurence, merci, comme ça m'aide à passer à autre chose. Ici, on fait beaucoup de lire de la littérature contemporaine, c'est notre travail, c'est la vie du book club. Voilà. Et bien sûr, on parle aussi de classiques et de livres du passé, mais globalement, c'est ça qui nous occupe. On parle assez peu de ce que ça fait, en fait, de lire ses contemporains. Vous qui le faites beaucoup, vous qui le faites presque en professionnel, Camille Laurence, vous diriez que c'est quoi? Lire des livres qui paraissent en même temps que le temps qu'on vit? Est-ce que ça offre une expérience particulière? Est-ce que c'est quelque chose de particulier?
Oui, je crois. Enfin, encore que peut-être pas tant que cela, parce que je crois que la littérature est contemporaine de toute façon, même si elle a été écrite au Moyen-Âge. Ce que ça fait, c'est que c'est tellement une expérience de vie, la lecture. C'est éminemment subjectif, en fait, même si on peut dire que je suis une lectrice professionnelle, je ne me vis pas comme ça, parce que je donne toute la place à la subjectivité, à ma sensibilité, c'est-à-dire à ce que ça me fait de lire ce livre-là en particulier, et en quoi il fait écho, à ce que je ressens, à ce que je pense de la société dans laquelle nous vivons, des problématiques éventuellement nouvelles, mais aussi celles qui sont éternelles, celles de la sensibilité, des affects.
C'est ça qui reste premier quand vous lisez un texte? C'est l'engagement de votre subjectivité.
Oui, et celle de l'auteur
ou
de l'autrice.
Ou
oui, c'est-à-dire j'ai besoin d'entendre une voix qui soit singulière aussi, alors qui me parle effectivement, et toutes les voix ne me parlent pas ou toutes les voix ne me séduisent pas, mais j'ai besoin de savoir que ce que je lis émane d'une intériorité forte et d'une nécessité en fait. Alors, c'est ça que je mesure. Alors peut-être parfois je me trompe, mais justement c'est la façon dont moi je perçois ce que je lis.
Vous dites deux choses à la fois, mesurer et savoir. Alors comment ça se mesure et comment ça se sait qu'il y a une intensité, qu'il y a une intériorité forte dans le texte qu'on lit?
Je crois que c'est Marguerite Duras qui disait ça, que quand il y a un livre, on le sait. Je crois que c'est dans Écrire. Voilà, on le sait, c'est un petit peu difficile à définir. En tout cas, on sait aussi quand il n'y en a pas, exactement. Voilà. C'est déjà la première discrimination, c'est que ça va assez vite, au bout d'un moment, quand on a l'habitude. Mais évidemment, tout cela est subjectif. Je le vois bien dans les discussions que je peux avoir avec... mes camarades des différents jurys, un livre qu'on adore peut être détesté par quelqu'un d'autre qui a aussi des arguments. Voilà, donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est vraiment la subjectivité. Il n'y a pas une vérité qui serait bonne à dire
sur un texte
voilà, de manière... universelle et définitive.
Vous qui parlez beaucoup de désir, ou qui réfléchissez beaucoup au désir dans vos romans, Camille Laurence, c'est quelque chose qui est encore fort, qui est encore actif, l'idée de se demander où est-ce qu'il y a des livres, ou savoir s'il y a un livre ou pas, c'est quelque chose qui vous intéresse encore fort?
Ah mais, c'est incroyable. Moi, je ne suis absolument pas blasée. Chaque fois que je reçois un livre, que j'ouvre l'enveloppe, je suis émue, mais c'est quelque chose qui m'a habité toujours et encore maintenant. Alors là c'est avec des textes que je connais déjà. Je peux avoir besoin de lire ou de relire un texte que je connais parce que je sais que ce texte va me faire du bien, mais comme un pansement, comme un médicament presque. Mmh. Et donc je peux chercher dans ma bibliothèque un livre avec une espèce de tremblement qui s'apparente à du désir. Mmh. Oui, absolument.
Et ça s'apparenterait à quoi ? Croire à la littérature, à aimer. C'est plus fort que aimer la littérature, ce que vous dites là.
C'est penser que la littérature peut me sauver, parce que bon, personnellement je pense qu'à plusieurs moments de ma vie il y a des livres qui m'ont oui je dirais pratiquement sauvé la vie. C'est intuitif évidemment, je ne peux pas expliquer exactement, comme des amis voilà qui seraient venus penser à la fois avec un A et un E ce que je pouvais éprouver de douloureux ou d'insupportable.
Justement, vous qui parlez souvent aussi du roman ou des textes ou des livres comme des outils d'élucidation du réel, on va le voir aussi dans le roman dont on parle aujourd'hui, presque de capacité d'éclairage en fait, quasi mécanique du réel par différents côtés. Est-ce que vous vous souvenez d'une ou deux expériences que vous voudriez partager avec nous? De livres qui auraient vraiment fait ce boulot-là très fort pour vous, de vous aider, ou de bouger un rapport au monde, ou de vous faire comprendre quelque chose de
déjà,
fort.
Déjà, tout ce qui est d'ordre poétique, j'ai toujours, depuis l'enfance, été très, très sensible à la poésie. Je dirais qu'il y a aussi un livre qui m'a marqué adolescente. Enfin, il y a deux livres qui m'ont marqué successivement. C'est Les nourritures terrestres de Gide. Parce que justement, sur la question du désir, c'est-à-dire s'abandonner en fait à la sensualité, au désir de vivre, une espèce de résurrection qui serait apportée par la vie, la lecture, le corps. Bon, tout ça, ça a été déterminant pour moi quand j'étais adolescente. Et puis, des lectures, je sais pas, la lecture de Racine, par exemple, sur l'amour, quand j'étais aussi adolescente. Bérénice, voilà, c'est comme une construction sensible de mon rapport à l'amour.
Mais on y apprend à aimer ?
On y apprend quelque chose qui est plutôt d'ordre tragique, hein, puisqu'en fait ce sont des tragédies. Donc. Mais on y apprend à, d'une certaine manière, à survivre à la douleur amoureuse.
Mmh. Et on y apprend aussi le langage amoureux.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Là aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a dans l'amour à la fois l'aspect du nouveau ou l'illusion du nouveau, et puis le perpétuel recommencement et la répétition.
Exactement.
Dans les textes, il y a aussi cela. Il y a aussi le discours amoureux.
Oui, le discours amoureux. Ben, d'ailleurs, vous citez là, un autre livre qui a été très marquant pour moi, qui est le livre de Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux.
Et pourquoi ?
Ben, parce que c'est à la fois justement très sensible, avec des exemples de moments amoureux, l'attente, la jalousie, bon, et une capacité à penser les choses, pas seulement à les éprouver, mais à les élucider,
à les
comprendre, à les articuler, et donc aussi à s'en détacher. D'ailleurs, les fragments des discours amoureux se terminent par le NVS, là, le non vouloir saisir, comment apprendre à ne pas vouloir saisir l'autre pour lui laisser sa liberté et donc une forme autre d'amour.
Quasi à l'inverse du mouvement que décrit votre roman Ta Promesse, qui est le beaucoup vouloir saisir et beaucoup vouloir emprisonner, on va y venir, puisqu'on parle de livres qui aident à penser dans les deux sens, et qu'il va être question aussi de la sourde installation d'une violence autour d'une femme dans Ta Promesse. Est-ce qu'il y a un livre qui aurait été comme ça, travaillé par la question de la violence et qui vous aurait marqué par sa lecture, Camille Laurence ?
Travailler par la question de la violence.
Ouais. Qu'elle soit sourde ou beaucoup plus projetée, parce que ici elle est très très sourde au départ.
Je pense à un livre de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, où il y a tellement d'histoires tragiques sous-jacentes, de malheurs, d'incompréhension, et sous une apparence de calme et de paix. Oui, ça c'est un livre très très marquant pour moi.
J'ai dit plusieurs fois son titre, c'est du vôtre, de livre dont on va parler dans un instant. Il s'appelle Ta Promesse, il a paru aux éditions Gallimard. On va le faire juste après l'écoute de cette chanson qui s'appelle Amour Plastique du groupe Vidéo Club. Dans mon souvenir, ça sort en 2021 et on y entend des mots d'amour.
Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. Que quand le jour sombre, que s'abattent sur moi mes tristes démons, dans l'abîme s'en font. Aime-moi jusqu'à ce que les roses fanent, que nos âmes sombrent dans les limbes profondes. Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré, qui es-tu, où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Anatomie d'une emprise amoureuse, aujourd'hui dans votre book club, une femme qui écrit promet à un homme qu'elle aime de ne pas écrire sur lui parce qu'il le lui a demandé. Elle lui a demandé en retour de ne pas la trahir. Ses serments ne tiendront pas et ils ne seront pas les seuls. Préparant sa défense pour un procès qu'il accuse de violence préméditée, cette femme raconte le début merveilleux d'une histoire et le dangereux piège qui se referme peu à peu sur elle par déformation du réel, manipulation, mensonge, absence d'empathie. Et c'est comme si la lumière sur l'histoire se faisait en même temps que le récit, pour elle comme pour nous. Comme si écrire et dire l'aidait à se défaire, dans l'après-coup, de la domination dévastatrice construite à bas bruit. D'autres témoignent et complexifient encore notre vision des choses. C'est un livre donc sur l'écriture, sur la place faite à la vraie vie dans les livres qu'on compose et vice-versa, sur la recherche d'une vérité qui toujours se dérobe, même quand on croit tenir les meilleures preuves et les signes parfaits. Vous citez Faulkner, Camille Laurence, la littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mieux mesurer l'épaisseur de l'ombre. Ta promesse est le titre de votre roman paru en cette rentrée littéraire de janvier 2025, et ceci aux éditions Gallimard. On en parle avec vous, et on va commencer par le vertige, par le mystère, qu'un style, le prologue, sur lequel je suis revenue, par habitude, voilà, de revenir au début d'un livre après qu'on l'a terminé, et le vôtre invite tout particulièrement à le faire, Camille Laurence. Dans ce prologue, quelqu'un nous dit « comme ce fut bon d'écrire la dernière phrase, comme ça m'a soulagée », voilà, et elle nous parle de son personnage, Claire, mon personnage. Et comme il est en question dans ce livre de savoir qui parle, qui raconte, à quoi jouez-vous dans ce début-là?
Oui, je dois dire, je me suis amusée, vous pouvez employer le verbe jouer. C'est une sorte de super narratrice qui vient couvrir l'ensemble du texte. C'est un petit peu comme le début de Madame Bovary quand Flaubert dit « Nous étions à l'étude » et puis soudain arrive Charles Bovary, « Nous étions à l'étude » et ce « nous » on ne le retrouve plus jamais. Donc « nous » ça impliquerait donc que Flaubert était là dans la salle de classe. J'ai pensé à ça, puis c'est ce jeu avec les systèmes narratifs, c'est les mises en abîme, les poupées russes comme ça, les emboîtements, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup, qui me vient de Gide aussi d'ailleurs.
Pourquoi?
Les faux monnayeurs. La mise en abîme, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Les jeux de miroir, on raconte quelque chose et puis c'est le roman dans le roman et qui parle? Finalement, c'est un petit peu la.
Mais est-ce que ça vous fascine pour qu'on y réponde, ou est-ce que ça vous fascine, ou vous d'ailleurs, pour qu'on n'y réponde pas tout à fait?
C'est plutôt
un peu en suspens.
Mais c'est cette question du vertige, vous savez, un peu comme quand on danse une valse et puis à la fin on ne sait plus très bien, les repères sont changés, donc on ne sait plus très bien où on est, ce qu'on fait, ce qui est. On perd un peu l'équilibre et j'aime cette idée que le lecteur, la lectrice va être un peu perdu et va être dans un état d'indécision.
Dans son jugement, oui. Presque.
Voilà.
Comme on est avant un procès, c'est d'autant plus vertigineux. Bon, je rajoute une couche de vertige sur le vertige, Camille Laurence, parce que cette perte de repère, cette manière de faire douter du réel est un des outils de la manipulation et de l'emprise que va exercer le personnage de Gilles sur celui de Claire. Or là, vous décrivez un vertige jouissif, un vertige qui donne du plaisir, c'est-à-dire comme une réponse presque.
Oui, mais parce que l'écrivaine que je suis, et je pense tous les écrivains sont les manipulateurs suprêmes d'une certaine manière, puisque ce sont eux pour le coup qui tirent toutes les ficelles du récit. C'était cela aussi qui était un jeu pour moi, c'est que bien sûr c'est une histoire d'emprise, c'est un personnage ici masculin qui exerce son pouvoir de tirer les ficelles, mais finalement, qui est ce qui tire les ficelles du roman, eh bien, c'est moi.
Mais a priori, l'écrivain ou l'écrivaine nous veut un peu moins de mal que Gilles ne veut du mal à Claire.
Ah, mais bien
c'est
sûr.
Là où c'est une réponse jouissive à un endroit dévastateur.
Mais bien sûr, évidemment, c'est toute la différence.
C'est plus joueur.
Oui,
quoi,
oui, oui. Oui,
on va écouter tout de suite une question d'une auditrice et membre du book club. Elle s'appelle Marie-Ève et je dis que moi je suis revenue au début, mais parce que la question de reprendre l'histoire depuis le début, c'est aussi une des dynamiques de votre roman. On l'écoute.
Bonjour le book club, bonjour Marie Richeux, bonjour Camille Laurence. J'ai adoré Ta promesse, votre dernier roman. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la façon que vous avez de nous emmener, sans trop savoir où est-ce qu'on va, hein, parce qu'on sait que c'est une histoire d'amour, on sait tout de suite dès le départ que ça va pas forcément bien se terminer, même si on sait pas comment ça se termine. Et vous nous tenez en haleine, vous nous prenez par la main sans nous la lâcher, pour arriver à ce final éblouissant. Tout ça en empruntant les codes du thriller, du roman judiciaire de façon totalement maîtrisée. Alors moi j'aurais une question à vous poser, c'est est-ce que quand vous commencez à écrire, vous savez précisément la phrase, le mot qui va terminer votre livre ? Merci le book club.
Merci à vous, Marie-Ève, pour ce témoignage de lecture enthousiaste et pour cette question que vous adressez à Camille Laurence. Alors ?
Ah oui, c'est une très bonne question parce que effectivement, ça fait partie de mon système, je pourrais dire, d'écriture depuis au moins 10 ans. C'est-à-dire que je commence par écrire la fin. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer un roman si je n'ai pas la fin, pas seulement dans ma tête, mais si je n'ai pas écrit ne serait-ce qu'une phrase ou un paragraphe qui sera la fin. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est pour ça que ça me fait plaisir d'entendre que le final est éblouissant, parce que tout le roman ensuite va vers cette fin que j'ai écrite d'abord, que j'avais en tête. Et c'est pour ça que c'est aussi joueur, puisque dans la première page, dans le prologue,
cette narratrice dit... Comme ça m'a fait plaisir
voilà, d'écrire j'ai écrit cette dernière page, et ça n'est pas la dernière page que nous lirons finalement, ça sera une autre fin.
Mais est-ce que pour autant le chemin d'écriture ensuite peut être semé d'inconnus ?
Ah oui !
C'est-à-dire, vous savez très bien où vous allez, Camille Laurence, après vous ne savez pas nécessairement par quoi vous allez passer.
Exactement. C'est-à-dire que c'est à saut et gambade, comme disait Montaigne. C'est-à-dire que je ne sais pas précisément où je vais, je n'ai pas de plan de travail. C'est comme si cette fin me tirait à elle et ça me simplifie énormément les choses de savoir où je vais.
Voilà. Alors, je vais essayer de dire les choses la manière la plus simple possible pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas lu ce texte. Il se trouve que cette fin, la vraie fin de votre roman, Camille Laurence, a beaucoup à voir avec les vrais débuts des personnages. Ok, ça va
oui.
Si je dis ça.
Oui, oui.
A beaucoup à voir avec une idée de l'origine des choses.
Oui.
Des toutes premières promesses.
Oui.
De l'enfance.
Oui,
voilà. Je dévoile pas trop.
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Et il y a quelque chose dans le roman qui, tout du long, demande à ce qu'on reprenne l'histoire depuis le début. Que ce soit se poser la question de ce qui s'est passé, dit, tenu, promis dans l'enfance, mais aussi au début de cette histoire. Enfin, il y a vraiment l'idée que c'est en racontant cette histoire depuis le début, ici, en vue d'un procès, qu'on va la comprendre, qu'on va l'éclairer, qu'on va... Voilà. Est-ce que c'est aussi ça que nous raconte ce roman-là ? C'est-à-dire ce que nous faisons de nos vies en se les re-racontant, en essayant de les reparcourir, Camille Laurence ?
Oui, mais c'est aussi la question de l'introspection, du retour par la mémoire sur ce qu'on a vécu, pour le comprendre. Alors, peut-être pas l'élucider complètement, puisque... Comme dans la citation de Faulkner, simplement ça éclaire comme un peu une allumette dans un bois la nuit, ça éclaire un tout petit peu et puis autour il y a la masse de l'ombre, mais c'est tout de même le propos, c'est tout de même le désir que je peux avoir de d'élucider un peu. Quelque chose de ce qui a été vécu, oui. Donc la mémoire, l'introspection, l'intelligence au sens étymologique, faire des liens entre les choses, c'est-à-dire se dire là, à ce moment-là, il s'est passé telle chose, mais est-ce que je ne peux pas le relier justement à autre chose qui m'est arrivé avant, l'enfance. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse, donc j'ai tendance à faire ces liens de l'intelligence entre l'enfance et puis tout ce qui nous découle. Arrive ensuite.
Oui. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle d'une opacité ou d'une ombre pas tout à fait levée à la fin du roman, c'est pas parce que à la fin il est question de promesses faites dans l'enfance de ces deux personnages que sont Gilles et Claire que tout s'est clair ou que tout est compris.
Non,
voilà,
c'est pas
de cet ordre-là non plus.
Non, ça n'est pas la résolution.
Il reste pas mal d'opacité à la toute fin de ce roman-là.
Oui, bien sûr.
On parle du début. Le début commence par une sorte presque de conte de fées, avec presque des ingrédients de conte de fées, y compris dans les mots que vous utilisez. Ça, c'est une rencontre amoureuse, certes, mais assez rapidement. Par exemple, je ne prends que cela, mais il va être question d'une maison magique. Puis on pourrait presque dire, comme c'est un réveillon du 31 décembre, il y a presque un bal au début.
Oui.
Est-ce que ça vous intéresse, ces motifs-là ?
Oui, d'abord, je lisais beaucoup de contes de fées quand j'étais enfant. J'aimais beaucoup cela. Et puis, je joue aussi avec les codes ici de la romance, en fait. Parce que ça commence comme une idylle, donc comme un conte de fées, oui, comme on peut le dire parfois. C'est un vrai conte de fées, et donc c'est le prince et la princesse, enfin la future princesse. Et donc je joue avec ces codes comme je joue avec les codes du thriller ou de la science-fiction par moment. Mais le conte de fées, c'est l'imagination qui préside à l'amour et qui peut-être est construit aussi, en tout cas chez beaucoup de filles, parce que j'ai aussi beaucoup interrogé la question des lectures de filles, et notamment ces contes de fées, et ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc, dans ce que Claire espère, dans ce roman, il y a ces images d'Épinal, au fond, de l'amour parfait, enfin trouvé.
Mais ça vous permet aussi de réfléchir à tout ce qu'il y a de projection et d'imaginaire dans la rencontre amoureuse, et qui est forcément ou nécessairement, on va dire, déconstruit ou tombe à un moment donné dans la vie. Mais là, il se passe autre chose que juste la chute des masques et des costumes, puisqu'on l'a dit, le piège se referme. On a aussi dit que le personnage de Claire était un personnage de romancière. Je voudrais qu'on écoute cette archive de 1976. Nathalie Sarraute parle de son rapport à l'écriture.
J'avais une inébranlable certitude que ce que j'écrivais correspondait d'abord à quelque chose qui avait une espèce de nécessité, d'existence en soi. Entre la forme et le fond, il me semblait qu'il y avait une fusion et que c'était là comme... Nier l'existence de ça, c'est comme dire que ce cendrier n'existe pas. Voilà. C'est toujours l'impression que j'ai eue. Une fois que mes livres ont été... terminé. Je suis en train de corriger les épreuves. Tout fluctue, je ne sais pas ce que c'est, je n'y comprends souvent rien. Il y a des jours où je trouve tout abominable, d'autres jours ça me paraît très bien, etc. À partir du moment où la chose est faite et qu'elle est partie au dehors, je ne peux plus... Elle existe pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Alors si les autres nient son existence... Ça n'importe pas tellement, ça ne m'importe pas à ce point-là. Ça ne peut pas le détruire.
La grande romancière Nathalie Sarraute en 1976. C'est très beau ce qu'elle dit là.
Oui, très beau.
Partir du moment où la chose est mise au dehors, dans ces cas-là, plus personne ne peut le détruire.
Oui.
C'est dire la confiance qu'elle a lorsque c'est qu'un livre. On revient à ce que vous disiez au tout début de cette émission, Camille Laurence, votre croyance dans ce que c'est que les livres, presque dans leur énergie intérieure, leur matérialité.
Oui, oui. Ouais. C'est très beau, effectivement. Mais c'est difficile à obtenir, effectivement, d'avoir une telle confiance. Alors, non pas en la littérature, mais là, en ce qu'on écrit soi-même, pour se dire, de toute façon,
c'est
voilà,
là.
C'est là, et plus personne, on peut attaquer, on peut critiquer, mais personne ne peut détruire cette chose-là.
Alors, vous vous dites que c'est difficile, mais elle, elle le relie, je ne dis pas du tout que ça ne l'est pas, elle le relie à la nécessité. C'est que presque la solidité de son œuvre littéraire vient de sa nécessité, ou serait proportionnelle à sa nécessité. C'est aussi assez beau comme idée.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon dont on sait ou pas qu'il y a une œuvre, qu'il y a une voix réelle et authentique. Et, c'est peut-être quand on sent qu'il y a cette nécessité que l'auteur a éprouvé la nécessité de l'écrire et que cette œuvre, ce livre change quelque chose du monde en fait.
Pour elle ou lui,
pour un lecteur,
qui le lise. Ce n'est pas un hasard si donc vous prenez ce personnage de Claire comme romancière, ça vous permet aussi de réfléchir à l'écriture, à la littérature.
Que je fais dans chaque roman.
Il y a vraiment quelque chose qui est en jeu là, on parle de pensée, mais là, tout le livre se demande qu'est-ce que c'est qu'être une écrivaine, qu'est-ce que c'est qu'un livre, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui rentre dans le livre, qu'est-ce que c'est qu'un livre qui rentre dans une vie. Enfin, vraiment, c'est presque ça. Tout ça dans le cadre d'un procès. Ou dans l'annonce d'un procès, donc ça tend ces questions-là. Sortie de l'écriture de ta promesse, qu'est-ce que vous auriez à en dire, Camille Laurence, de tout ça?
Qu'est-ce que j'aurais à en dire?
Qu'est-ce que ça fait d'écrire des livres dans la vie? Qu'est-ce que ça fait d'écrire des livres dans la relation amoureuse? Ou peut-être, pour distancier un peu la question, qu'est-ce que ça fait à Claire, à votre personnage?
Je sais pas si j'ai envie de distancier la question, là, parce que je sais ce que ça m'a fait, pas pour ce livre-là, souvent, à la fois, le fait d'avoir écrit le livre met à distance quelque chose, l'éclaire, et permet de le dépasser. J'aime bien je crois que c'est aussi c'est toujours Duras qui disait les choses ont eu lieu, on a vécu des événements, mais ensuite ce qui a été vécu est remplacé par ce qui a été écrit. Et cette sensation là que une fois le livre écrit, la réalité, les événements, les chagrins sont dépassés, sont remplacés par
le texte.
C'est un sentiment de réussite.
Et pourtant, c'est aussi cette position de femme qui écrit qui met votre personnage Claire dans une situation particulière, ça et plein d'autres choses, vis-à-vis de Gilles. Et c'est d'ailleurs probablement pas un hasard si cet homme qui va tisser autour d'elle une véritable toile d'araignée emprisonnante lui fait faire la promesse de ne pas écrire sur lui. C'est bien qu'il sent qu'elle a un outil important là, dans le fait de pouvoir écrire. C'est lui demander de renoncer à ça, c'est lui demander de renoncer à quelque chose de très précieux.
D'essentiel pour elle, bien sûr. Ça fait partie d'une forme de prédation, c'est-à-dire d'empiéter sur ce qui lui est le plus cher. Alors ça peut être aussi l'espace, même simplement géographique, de quitter son logement pour habiter ailleurs. Qui lui demande. Et là, c'est la priver de ce qui fait l'essentiel de sa vie, c'est-à-dire l'écrire.
C'est aussi ce qui fait, puisqu'il est question de retrouver un peu de vitalité dans ce livre-là, c'est-à-dire que plus elle raconte, plus il me semble qu'elle peut penser, rendre les choses intelligibles, comme vous disiez tout à l'heure, Camille Laurence, et elle a été pendant tout un temps de cette relation amoureuse coupée de cette capacité-là, elle retrouve, on va y venir, une sorte de mise en mouvement par l'écriture, notamment par l'écriture de formes brèves, de poèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivée à cette idée-là, cette femme-là, elle va aussi nous dire des choses à travers les poèmes qu'elle écrit?
Là, je voulais montrer comment, quand on veut dire quelque chose, on a une idée de de livres, pas forcément de romans, justement. Comment est-ce qu'on commence? Comment trouve-t-on la forme adéquate à ce qu'on veut dire? Et parfois, eh bien, cette forme, c'est la forme poétique, c'est ce que fait Claire. Elle ne peut revenir dans l'écriture que par une forme brève, poétique. C'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même après avoir perdu, j'ai perdu un enfant, et ensuite, je me souviens qu'à l'époque j'étais chez POL et je n'arrivais plus du tout à écrire, et il m'a dit, bah, écoutez, essayez de revenir par des petits bouts de texte, et ça a donné un recueil de textes qui s'appelle Quelques-uns. Et d'ailleurs, dans ce texte, dans ce recueil, où je prenais des mots, un peu comme Sarraute d'ailleurs, je prenais des mots de la langue française et je les tournais un peu dans tous les sens. Et il y avait notamment le pronom « on ». Et dans Ta promesse, tous les poèmes de Claire commencent, sont écrits avec ce pronom indéfini et commencent par « on est là ». C'est-à-dire que la poésie, là, lui permet d'attraper quelque chose du chaos dans lequel elle est, du chaos, la tourmente amoureuse, qui ne peut pas s'exprimer d'une manière rationnelle, linéaire, comme on doit le faire dans le roman. Et donc, elle passe à la fois par cette forme plus fragmentée, par un pronom qui n'est pas un pronom usuel pour le roman, qui est un pronom indéfini, on, et par le temps présent, espèce d'immanence de la poésie.
Ça me fait penser à deux choses que vous dites là, Camille Laurence. L'intrication si puissante entre écrire et vivre pour cette personne. L'impression que recommencer à écrire, c'est juste basiquement retrouver la possibilité de vivre.
Oui.
Et l'autre chose, c'est quand même l'horizon du procès que vous choisissez pour ce roman. Et vous dites, en parlant de ces poèmes, parfois faut trouver la forme pour pouvoir dire. Et on est dans une époque où ce sont des questions crucial de se projeter dans le pouvoir dire, notamment beaucoup de femmes qui doivent trouver la possibilité, l'espace, alors judiciaire, intime, médiatique, littéraire, pour pouvoir dire, et où il est beaucoup question de violence. Oui. Peut-être en deux temps, si vous voulez bien répondre, l'horizon du procès, qu'est-ce que ça vous permet à vous? Et puis sur l'intrication puissante entre le vivre et écrire.
Ce que me permet le procès dans le roman,
oui.
J'ai pris cette forme parce que justement très souvent la violence dans les cas comme ça de violence psychologique est invisible et là j'ai fait exprès de faire en sorte que ce soit Gilles la victime apparente puisque elle l'a frappé et donc ce
et
soit
il se
elle
tait. Il est dans le coma donc il peut pas parler.
Voilà, donc voilà, il ne peut pas parler, et c'est elle la coupable apparente, et de fait elle est coupable de quelque chose, puisqu'elle elle a effectivement été violente. Et donc, comment renverser les apparences, au fond, et arriver à démonter et démontrer le fait qu'il y a des violences silencieuses, il y a des violences insidieuses, qui peuvent être tout aussi délétères que les violences physiques et amener d'ailleurs à
la violence physique.
Oui, oui, exactement.
Avec toute la difficulté dans votre roman et dans le procès de votre roman comme dans le réel, Camille Laurence, qui est que pour ces violences sourdes, c'est très délicat d'établir des preuves.
Exactement.
Et elle se débat aussi beaucoup avec ça.
Oui.
Elle a la parole pour elle. Elle a les mots pour elle.
Oui.
Et celles et ceux qui témoignent. Et pas grand-chose d'autre.
Oui,
c'est quelque
ça.
Chose
mais
de c'est... vertigineux.
Oui, 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 oui. Mais c'est pour ça qu'il y a un moment, il faut que la vérité s'incarne dans des preuves. Des preuves qui ne soient pas seulement... parce que les mots ne sont pas des preuves. On peut mentir, on peut faire dire ce qu'on veut aux phrases qu'on prononce. Et donc, à un moment... et tout le roman tend vers cela, il faut une vérité factuelle. Parce que le langage, et c'est ça qui est malgré tout douloureux, c'est que la langue ne peut pas tout.
Voire, elle peut l'inverse.
Elle peut l'inverse, bien sûr.
Ce que démontre beaucoup votre roman, c'est qu'il y a toute une possibilité qui est donnée à Gilles de la rendre folle, cette Claire, avec des mots qui, dans un premier temps, on la parera des mots d'amour.
Exactement, oui. Bah, c'est-à-dire que le langage a été donné à l'homme pour déguiser sa pensée, et tout comme le langage a été donné à l'homme pour dire la vérité. Les deux existent.
On écoute un extrait de ta promesse. Il est 4 heures du matin, 10 heures du soir à Toronto. Quand Gilles était à l'étranger, ou bien moi, toutes ces années, jamais je ne l'avais appelé au milieu de la nuit, la sienne ou la mienne, pas une fois. Ma confiance et l'obsession de ne pas déranger m'avaient toujours empêché de le faire. Empêcher n'est pas le mot, je n'y pensais même pas. Cette nuit, c'est ma crainte de l'irriter par une intrusion maternelle qui aurait pu m'en dissuader. Mais l'angoisse a été la plus forte, une angoisse réflexe, vous savez, l'angoisse mortelle qui doit se frayer une issue parmi la foule de fantômes. Les premières sonneries résonnent dans le vide et puis un chuintement et ça coupe. Je change de pièce et je rappelle, je commence à être familière de WhatsApp. Cette fois, il décroche. Je distingue un rire de femme en arrière-plan, étouffé par un grand bruit de vaisselle qu'on remue, une table qu'on débarrasse sans délicatesse. Gilles, tu es au restaurant, dis-je. Amusé d'entrer ainsi par l'oreille, angoisse envolée, à des milliers de kilomètres de distance, dans sa réalité sonore, ému de pénétrer son intimité quotidienne dont je suis privée et qu'il me tarde de retrouver. Saint-Valentin, restaurant, femme, mon cerveau n'établit pas la connexion. On est là, on est à Toronto. On n'y est pas comme on y a été autrefois, dans les murs, dans les bras, sous les doigts qui laissaient le piano pour nos seins, pour nos joues. On est sorti du corps qu'on avait. Il tremble et transit à Paris. On est à l'extrême nord de l'amour. Le froid mort, une congère se forme à la place du cœur. Dans les veines, plus rien ne circule, que des bruits de voix, des mots qui glacent. Les mains sont prises dans le marbre des tombeaux où le temps passe. La tête n'a plus de tête que l'idée. Le souvenir reste, le nom de crâne lui va mieux. Où grelottent des pensées précaires, bientôt mousse, mouche, lichen, vanité, bientôt liquidée. Un extrait de votre roman, Camille Laurence, Ta promesse, où se juxtapose le régime de narration, on va dire, mais qui est un régime particulier, on l'entend puisque cette femme parle à son avocate, elle lui raconte, donc c'est aussi ça qui dirige votre écriture. Et puis un extrait des poèmes dont on a parlé tout à l'heure et qui s'incrustent dans la narration. Comme à chaque fois, pour ajouter des points de vue, je ne suis pas revenue sur les parenthèses avec les italiques, mais aussi sur l'intrusion d'autres paroles qui elles-mêmes complexifient pour nous ou nourrissent la vision des choses. Ce qui me paraît important dans cet extrait, c'est la manière dont vous saisissez, dans ce mécanisme violent d'emprise amoureuse, la sidération, la congélation, qui est un des états que vous décrivez, Camille Laurence. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ou qu'est-ce qui vous semble important ?
Ah oui, mais oui, vous avez raison, c'est le froid qui envahit le corps. C'est la souffrance, c'est très physique. Ça n'est pas juste un sentiment, c'est d'abord quelque chose, c'est d'abord une sensation. Et je voulais vraiment développer ce sentiment du froid qui va avec la mort de la confiance, la mort de l'amour, le choc, la sidération. En effet, c'est le mot, sentiment de devenir cadavre presque. Donc la violence, le chaos qui s'installe comme ça, tout d'un coup dans le corps, au point d'ailleurs que Claire a l'impression que toutes ses cellules s'agencent autrement, et même que dit-elle, le cancer fait le tour du propriétaire. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans le corps qui est violenté par la découverte de la trahison. C'est l'intrusion de la mort dans ce qu'on croyait vivant.
Mmh. Mais d'ailleurs, vous dites souvent que le désir, c'est l'inverse de la sidération, qu'il y a quelque chose du
exactement,
désir qui décidère.
Étymologiquement, ouais. Voilà, le désir, c'est se décidérer, voilà, c'est être en mouvement et sortir de cette sidération qui est complètement mortifère, parce qu'on est pris dans les glaces.
Il y a quelque chose de la mise à mort que décrit votre roman, Ta promesse, assez méthodique, donc de plus en plus glaciale, Camille Laurence. Qu'est-ce que vous avez choisi de regarder, presque aussi des relations amoureuses, enfin du temps présent, en regardant ce mécanisme d'emprise? Je pose aussi cette question en éclairage avec, on va dire, d'autres œuvres qui le font en ce moment et différemment, mais avec autant de brio. Enfin, j'ai évidemment beaucoup pensé sur un autre plan, mais Anatomie d'une chute. Enfin, j'ai pensé à des romans ou à des films de femmes, souvent, qui viennent sonder comme ça vraiment ce mécanisme-là. Est-ce que ça, vous disiez tout à l'heure, tout est toujours contemporain, mais est-ce qu'il y a quelque chose de singulièrement contemporain ?
Oui, d'une manière plus générale. Enfin, ça dépasse le simple cadre de la relation amoureuse, mais ça c'est particulièrement illustré par la relation amoureuse, c'est-à-dire une volonté. Peut-être que c'est pas premier d'ailleurs la volonté de domination de l'autre, mais c'est plutôt que dans ce type de relation amoureuse, l'autre n'existe pas vraiment, c'est juste une construction imaginaire sur laquelle on va d'ailleurs projeter ensuite d'abord qu'on va idéaliser, parce que l'idéalisation dans l'amour
c'est le cas de tout, on va dire
c'est le principe, voilà. Oui
c'est le lot commun,
voilà, c'est le lot commun, et dans certains cas, quand il y a une forme de prédation comme ça, d'emprise, c'est l'absence totale d'empathie, c'est-à-dire dès que quelque chose ne va plus dans la relation, eh bien, on jette l'autre. Je pense que c'est une nouvelle forme de rapport à l'autre, enfin au sens où il n'y a plus d'autre, précisément.
Il y a une forme de négation.
Voilà, de négation. Donc, ce n'est plus vraiment ce qu'on pourrait appeler de l'amour. Ce sont des rapports de pouvoir. Et normalement, ça ne doit pas être premier dans une relation amoureuse. Enfin, je dis normalement comme s'il y avait une norme, mais bon.
Il y a quelque chose de difficile, d'autant plus difficile que, puisqu'on met en relation à la fois la sidération et le désir, c'est que cette femme, elle croit au désir. Elle croit même à l'exactitude de la sexualité. C'est-à-dire qu'on parlait de preuves, mais dans un premier temps, sa difficulté à penser la violence vient du fait qu'ils s'aiment et qu'ils aiment faire l'amour et qu'il y a quelque chose entre eux de réel et de réellement bon. Parce qu'ils font l'amour, et je dirais parce qu'ils font bien l'amour, parce qu'ils jouissent de leur corps. Il y a quelque chose qui se désolidarise, presque qui rend caduque sa croyance, ou pas, ou ça résiste ça quand même, Camille Laurence.
Dans le roman, ça ne résiste pas, puisque donc elle devient elle-même comme une sorte de congère complètement
gelée,
voilà. Maintenant, si vous me posez la question plus généralement,
je crois.
Je crois toujours au désir. Oui, je crois qu'on peut toujours se décider.
Oui, vraiment. Hein, c'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'on peut se remettre en mouvement, donc soit comme le fait Claire par l'écriture, soit par l'étude de soi-même. Connais-toi toi-même, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que ça donne des clés pour vivre, pour avancer. Bon, je pense évidemment aussi à la psychanalyse, c'est-à-dire tout ce qui permet de rester vivant au-delà, voilà.
Du bouger, à l'inverse de la congère congelée.
Voilà. De se remettre en mouvement, même si c'est compliqué, difficile, lent, mais j'y crois.
Et l'écriture, ça peut être le lieu
de
cela.
Ah oui, bien sûr. C'est essentiel, oui.
Et pourquoi vous l'énoncez comme une évidence, que l'écriture, ça peut être un lieu de connais-toi toi-même ?
Parce que je le vis sur ce mode-là depuis toujours, depuis la lecture, en fait. La lecture, pour moi, c'était une entrée dans le monde sensible de quelqu'un d'autre. Donc ça m'apprend, je connais les autres, et ça me renvoie à des questionnements sur moi-même. Donc tout ce qui est spéculaire, tout ce qui est introspectif, le livre intérieur de Marcel Proust, là, le fait de connaître, de savoir lire son livre intérieur, c'est vital.
J'ai dit au début que j'étais revenue au début, justement, c'est qu'arrivé à la fin de votre roman, j'ai eu qu'une envie, c'était de recommencer depuis le début, parce que il est question des promesses faites dans l'enfance de Gilles Leclerc, qui peut-être ces promesses tenues ou non tenues auraient déterminé, c'est une des hypothèses du livre, leur propre rapport aux autres, au monde, aux sentiments amoureux, au désir. Est-ce que, on a parlé de l'aspect joueur de votre écriture, est-ce que ça vous amuse cette idée qu'on ait vite envie de recommencer depuis le début?
Ah, moi, ça me plaît beaucoup, oui. Oui.
Ça vraiment. J'ai pas pu en acheter un autre, hein. J'ai juste recommencé depuis le début.
Ouais, c'est un cadeau, là, que vous me faites. Mais en fait, je me suis rendu compte, parce que quand on m'a beaucoup posé des questions sur l'intérêt que j'avais pour le thriller, et puis sur le fait que j'adore qu'on me dise, je n'ai pas pu lâcher le livre, et là, vous me dites, j'ai envie de recommencer, donc je ne veux pas le lâcher, puisque j'y retourne. Et je me dis en fait que pour moi, c'est que moi, je n'ai pas envie d'être lâchée. Oui. Voilà. J'ai envie qu'on reste avec moi.
Ah, on vous tient.
Voilà.
Le book club continue, on lâche rien.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et on continue avec vous, Diatti Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en résidence dans le book club avec nous pendant plusieurs semaines. Votre boulot est simple et faramineux. Vous devez lire ou relire des textes en fonction de l'actualité. Alors, quel livre et quelle actualité pour démarrer cette nouvelle année, Diatti?
Alors, pour débuter l'année, j'avais envie de parler d'une actualité à Paris. C'est le combat des jeunes du parc de Belleville. C'est un collectif antiraciste, décolonial, auto-organisé. Ils et elles sont ce que l'État appelle des mineurs non accompagnés, des enfants dits migrants, donc je mets un peu des guillemets autour de ce mot, sans tuteurs légaux et sans papiers français. Pour être reconnus mineurs, ces jeunes doivent faire face à des évaluations expéditives humiliantes qui débouchent souvent sur une non-reconnaissance de celle-ci, la dite minorité, de leur droit à être des enfants, donc. Il et elle occupent en ce moment la Gaîté Lyrique, qui est un lieu culturel au centre de la capitale, s'y organisent afin de visibiliser leur combat auprès des institutions dont la mairie de Paris, qui ne leur répond pas pour le moment, avec pour objectif notamment d'obtenir des solutions d'hébergement dignes et pérennes, mais aussi, voilà, ce que j'avais envie de dire, c'est que plus de 200 entre elle et eux, ils dorment chaque nuit depuis des semaines maintenant, dans une seule pièce à même le sol, pour éviter d'être dans la rue à la merci du froid, mais aussi de la répression policière qui est constante à leur égard.
Donc l'idée de cette chronique du lundi, lecture d'actu, c'est de trouver des livres qui sont en écho avec des faits d'actualité que vous choisirez. Diatti Diallo, donc quel livre vous avez eu envie de sortir de votre bibliothèque pour souligner cette actu-là?
Alors j'ai eu envie de sortir un livre qui s'appelle « Sous le règne de Bone » de Russell Banks. Le rapprochement est peut-être pas forcément super évident comme ça de prime abord, mais de la lecture que j'en ai, je trouve que c'est un livre magnifique sur la fuite, sur ce que ça coûte à un enfant de vouloir sauver sa peau. Là, c'est l'histoire d'un adolescent blanc de la working class en situation de décrochage scolaire qui passe son temps libre à fumer des joints au centre commercial et à tenter de trouver de l'argent pour fumer plus encore, notamment en dépouillant du peu qu'ils ont. Sa mère et son beau-père, des personnes, disons, très dysfonctionnelles, qui finissent d'ailleurs par le mettre à la rue.
Donc ça, c'est le point de départ du roman.
Exactement. Et puis alors va démarrer une longue fuite durant laquelle il changera son prénom pour se nommer, se redéfinir même en Bone, et qui lui fera croiser le chemin de plein de gens vraiment à l'américaine. Des motards tarés, un monsieur vicieux, une petite fille que sa mère n'aime pas, qu'il abandonne d'ailleurs, un peu comme lui, un peu comme la sienne. Des étudiants fracassés, mais surtout Ayman, un homme noir d'origine jamaïcaine qui vit en autosuffisance dans un bus abandonné sur un terrain vague et qui va le prendre sous son aile. Et donc si la traduction du livre est selon moi un poil raciste par endroit, au lieu par exemple de trouver une résonance française à de l'anglais jamaïcain, elle se contente de reproduire un accent, et ça bon je mets plein de guillemets autour d'accent, ça n'empêche pas le livre d'être une merveille, vraiment une traversée de l'isolement de l'enfance, dure mais solaire, ponctuée sous l'apparent ton enfantin du narrateur, de réflexions intenses sur certains aspects de la blanchité, de sa colonialité notamment.
Donc on entend que c'est un livre qui est très dense, qui est très... pluriel, c'est une sorte de roman à strates.
Exactement, ouais. Et on pourrait se contenter de dire que c'est un roman initiatique parmi tous les romans initiatiques qui existent, mais je pense que c'est un livre avec beaucoup plus de replis que ça et qui évoque dans ses replis, par exemple, sans même discourir dessus, les conséquences de l'inceste et de l'absence de protection de l'enfance face aux violences des adultes, des terreurs protégées par le système et qui commencent presque toujours à la maison. Et si j'aime profondément ce livre, c'est aussi parce que son histoire, pour moi, défend les enfants, leur droit à tomber, se relever, d'être naïf, d'avoir des pensées stupides encore en construction, et qui parle aussi de comment ça blesse aussi de devoir devenir grand plus vite que les autres avec des vies normales. C'est un roman qui défend une souveraineté de l'enfance, de toutes et tous ces petits-petites que notre monde ne veut pas regarder et qui ne peut, cette souveraineté, pas s'accomplir sans l'amour et la solidarité des adultes autour. Donc je trouvais que c'était un écho réel au combat que sont contraintes de mener elles-mêmes, les jeunes du parc, à la gaieté lyrique en ce moment, depuis cette même enfance qui leur est complètement dérobé.
Et on mettra un lien pour les personnes qui veulent en savoir plus et éventuellement aider à leur façon sur la page de lecture d'actu. Est-ce que vous avez envie de nous lire un petit extrait d'Yati Diallo pour terminer la chronique sur les mots de Russell Banks ?
Oui, absolument. C'est un livre qui est assez long en fait, avec pas mal de descriptions d'actions, de rebondissements, mais il y a aussi des passages poétiques et contemplatifs comme celui que j'ai choisi de vous lire.
Allez.
Le problème, c'était que même si j'arrivais enfin à voir de mes propres yeux qu'il existait là-haut des constellations, j'étais incapable de m'en rappeler les noms ou les formes. Je savais qu'il devait y avoir un mec avec un arc et des flèches et un chariot et des chevaux et des dieux et des déesses grecques, mais je n'arrivais pas à les repérer. J'ai essayé de relier les points à ma façon. Il y avait, du côté nord du ciel, vers le bas, un groupe d'étoiles. Un autre amas d'étoiles qui flottait perdu dans une partie très sombre du ciel m'est apparu comme une rose à longue tige. Je l'ai observée longtemps et j'ai presque pleuré de la voir si fragile et sans protection là-haut, toute seule. Elle avait de petites épines et des pétales roses superbes. C'est devenu la constellation de Sœur Rose, le signe de l'enfant rejeté. Juste au-dessus de moi, un troisième groupe d'étoiles flottait. Je suis restée allongée sur le dos à le regarder en face jusqu'à ce qu'il en sorte une tête de lion surmontée d'une couronne. C'était la constellation du lion-jeu, le signe de l'esprit ouvert. Et dans les étoiles qu'il a composées, même si je ne pouvais pas le voir, je savais qu'il y avait Ayman et qu'il me regardait, avançant les lèvres en une petite moue souriante et levant les sourcils pour montrer son léger étonnement devant la tournure que prenaient les choses.
La tournure que prennent les choses, ce sera presque une sorte de sous-titre de votre chronique d'Yati Diallo. Merci beaucoup, lecture d'actu, ça se réécoute sur franceculture.fr. Vous avez aujourd'hui parlé de « Sous le règne de Beaune » de Russell Banks. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue à repérer des chansons, de la musique dans vos livres. Et il y en a dans votre livre, Camille Laurence, qui s'appelle « Ta promesse ». Qu'est-ce que je fais ? Lecture d'extrait ? Par lecture d'extrait ? Pas lecture d'extrait, on n'a pas le temps. En fait, on est dans une voiture, ce personnage de Gilles est assis à côté d'Alice, la fille de la narratrice, si je me souviens bien. Et il y a tout un système là aussi de prédation, de séduction par la musique qui leur fait écouter, contrairement à ce qu'il avait prétendu auprès de son amoureuse. Et c'est « Love is a Losing Game » de Amy Winehouse. Pas mal de terminer comme ça, non?
Oui, je te...
Mais en même temps, je sais pas, parce que si on perd toujours, du coup, est-ce qu'on a envie de jouer, Camille Laurence?
Ah bah bien sûr.
On a quand même envie de jouer.
Il faut prendre le risque,
oui,
voilà. Il faut y aller.
C'est un losing game, mais il faut tenter sa chance.
Si on joue que si on est sûr de gagner...
C'est nul.
Oui,
bah
oui.
Bah oui. Et vivre, c'est jouer quand même.
Voilà. Voilà.
Ta promesse, c'est le titre du roman dont on a parlé aujourd'hui avec grand plaisir. Il a paru chez Gallimard. Merci beaucoup, Camille Laurence, d'avoir été avec nous. Au son, c'était Dali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club et tout particulièrement à Noé Margas aujourd'hui.